France Musique.
Merci Vincent Théval. Rendez-vous pour un nouveau numéro du Label Pop dimanche prochain.
1, 2, 3. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission rutilante. Nouvelle étape dans notre périple autour du métal. En résonance avec l'émission de la semaine dernière où Nicolas Bénard nous a conté les ramifications du métal comme style musical, nous recevons aujourd'hui Mathieu Metzger, saxophoniste, improvisateur, ingénieur du son et musicologue, qui s'est posé très tôt la question de la modernité dans la musique métal, en particulier dans le cas du groupe Meshuga. Il nous fera entendre comment le métal transpire de ses compositions personnelles pour son trio de free metal, Killing Spree. Et comme chaque dimanche, un zoom sur une œuvre récente et un son opéré à cœur ouvert. Le Cri du Patchwork, thème numéro 10, épisode numéro 4, séquence numéro 1.
Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Le triangle. Ce scintillement métallique qui émaille l'orchestre symphonique au moins depuis le XVIIIe siècle. Une touche de métal discrète, mais qui peut tout aussi bien être irritante. On pense à l'appel au souper ou à l'alarme à incendie. Mais ce triangle hystérique est aussi convoqué lors de tutti orchestraux tonitruants, comme ici à la toute fin du premier acte de Siegfried de Richard Wagner. Même si, en général, il joue d'autres percussions au cours de l'œuvre, on imagine très bien le joueur de triangle attendant désespérément la fin de l'acte pour molester à répétition son instrument. Ce qui est toujours aussi étonnant, c'est la capacité de ce petit instrument à émerger brillamment ou bruyamment de la masse orchestrale délirante. Outre ce caractère frénétique du triangle, il y a le coup essentiel. Celui que le compositeur a placé là pour une raison bien précise et qu'il ne faut pour rien au monde louper. Nous sommes à la toute fin du deuxième acte du même Siegfried. Entendu ce coup de triangle ? Eh bien non, il a disparu dans cette version de 1957 sous la direction de Rudolf Kempe. Le joueur de triangle aurait-il oublié de jouer ? Ou l'enregistrement live l'a peut-être gommé ? C'est fort dommage pour un seul coup sur à peu près une heure de musique. Une autre version pour entendre ce coup de triangle. Thank you. Ça y est, on peut voir dans cette version plus récente, en studio, l'apport du triangle, dernier scintillement de l'acte accompagnant les bois, nous rappelant l'oiseau que rencontre Siegfried dans son périple. Évidemment, lorsque Wagner demande un seul coup de triangle sur un acte entier, ce n'est pas au hasard. Le triangle joue ici un rôle spécifique de timbre, de couleur, de ponctuateur et de liant du discours. Luigi Nono, dans son œuvre dédiée à l'architecte Carlo Scarpa, Ai suoi infiniti possibili, de 1984, intègre 7 triangles de hauteurs différentes au sein d'un orchestre à micro-intervalles, comme il le dit. Tout au long de l'œuvre, qui oscille entre notes tenues et impacts brefs, les triangles ponctuent ces stases sonores pour révéler un silence qu'ils mettent en relief. Mais au fil de l'œuvre, tous les instruments deviennent des triangles, ces sons constitués d'impact et de résonance. Tandis que les triangles deviennent les sons longs, on inverse les rôles, les triangles deviennent l'orchestre à micro-intervalles. Enchaînement douteux, j'en conviens, entre Luigi Nono et Only You du groupe 112 en 1996. Et pourtant, nous pourrions avancer que les années 90, dans le R&B, représentent l'âge d'or du triangle. Jusqu'à l'overdose, tout le monde a utilisé ce gimmick de triangle, le fameux « tiki, tiki » pour créer le groove si caractéristique de ces années-là. Quand on parle de groove créé par le triangle, on ne peut pas passer à côté du forró du nord-est brésilien. Avec son binôme, le zabumba, une petite grosse caisse, il crée toute la base de la danse, le balancement, le groove.
O safoneiro quando cai de forrosada, deixa doida a mulherada e a poeira sai do chão. O safoneiro quando cai...
Chacachang, c'est comme cela que certains musiciens de musique cajun en Louisiane appellent le triangle. Les Acadiens l'appellent également tifer. Dans cet enregistrement des années 30 de Joseph Falcon, le triangle laisse la place à la voix, car il prend une place prépondérante inévitable. Christine Balfa, fille du musicien cajun Diwe Balfa, est allée encore plus loin. Un disque de 55 minutes uniquement de triangle, où chaque morceau, chaque danse se résume à ce seul instrument. La musique cajun réduite à l'essentiel. Voici « Tifer à grand-père ». Un solo de triangle presque expérimental. En parlant de solo, l'un des tout premiers de l'histoire de la musique occidentale écrite a lieu dans le premier concerto pour piano de Franz Liszt en 1853. Pour lancer son dernier mouvement, Liszt intègre ces quelques coups de triangle qui ont fait couler beaucoup d'encre. Déjà, à l'époque, certains l'appelaient le concerto du triangle. Mais le triangle était déjà présent depuis longtemps dans l'orchestre, mais aussi dans la tradition de la musique occidentale, au moins depuis le Moyen-Âge, où quantité de représentations iconographiques nous montrent un triangle doté d'anneaux, permettant certainement le prolongement des vibrations métalliques. Certains avancent que le triangle était encore comme cela, lorsque Mozart l'utilisa dans son ouverture de l'enlèvement au Sérail, en 1782, pour imiter les percussions turques, les turqueries. Donc, cela ne sonnerait sans doute pas du tout comme cet enregistrement réalisé sur un triangle, on pourrait dire, moderne. L'un des problèmes avec le triangle, c'est sa capacité à ne faire qu'un seul son, ou type de son, lié à la frappe. Trouver de nouveaux modes de jeu sur le triangle impose de se creuser la tête. Béla Bartók, dans sa sonate pour deux pianos et percussions, nous indique que le triangle doit être joué avec la baguette en métal habituelle ou avec une baguette de bois fine. Comme dans cet extrait, où il passe de l'un à l'autre, et on entend alors que la frappe avec le bois est moins parfaite, moins précise. triangle est une touche de timbre, un instrument autant que tous les autres pour agrémenter la palette des compositeurs comme Morton Feldman, toujours à l'affût de la note juste et précise. Dans Instruments 1, le coup de triangle émaille cette musique faite de notes isolées, posées là pour tisser une trame à la fois tendue et calme. Le triangle est donc aussi une expérience sonore unique. Le Saint Triangle. C'est un peu ce qu'a imaginé François Saran dans son œuvre « Les retentissantes trompettes du néant ». Une percussionniste est seule en scène avec un triangle. Le compositeur raconte « Le triangle est comme un totem. On l'adore, on le prie, on le danse, on veut le jouer, le toucher. Mais mille raisons intérieures nous l'interdisent. Il y a donc des phases de prière, de danse rituelle, de psalmodie. Mais jamais on entendra ce triangle. » À l'opposé de la démarche quasi théâtrale de François Saran, Alvin Lucier donne à entendre un triangle intermittent, jouant des frappes régulières omnubilantes. Lucier explore ainsi les possibilités acoustiques de l'instrument. Il nous dit « Le musicien assourdit le son du triangle en le tenant entre le pouce et l'index d'une main, alors qu'il le frappe de l'autre. Le jeu consiste à modifier les endroits de ces deux actions sur l'instrument. » Et à changer la pression des doigts sur le triangle, ainsi que la rapidité et l'amplitude de la percussion. Au cours de l'exécution, les particularités acoustiques du métal replié sont révélées. Voici un court extrait de Silver Streetcar for the Orchestra, selon l'appellation que Louise Bunuel donna au triangle, le tramway d'argent de l'orchestre.
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Mathieu Metzger, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes saxophoniste, improvisateur, ingénieur du son, et les auditeurs de France Musique ont pu vous voir sévir par exemple au sein de l'ONG de Daniel Ivinek. Mais cette fois-ci je vous invite en tant que musicologue, on pourrait dire ça puisque vous avez commis un mémoire de maîtrise sur Meshuga, un groupe de métal suédois. Et ce mémoire s'appelait Meshuga, une formation de métal atypique. Alors certains vont dire que c'est du métal expérimental, qu'est-ce qui fait pour vous que Meshuga c'est du métal atypique ?
Déjà, pour moi, le mot expérimental, souvent, est un peu connoté. Il y a un côté raté dans la musique quand on parle d'expérimental. Et je préférais donner Atypique parce que c'est vrai qu'ils ont lancé quelque chose sans le savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur ont emboîté le pas. C'était pour expliquer dans le contexte musicologique qu'on était dans du métal, mais qu'ils avaient une personnalité dans ce contexte-là. Je voulais faire vraiment un mémoire d'analyse, donc c'était le début de l'analyse, ce titre.
Oui, parce qu'en fait, avant vous, en fait, il y a eu très peu de mémoire sur le métal. Et d'ailleurs, dans ce mémoire, on se rend compte que finalement, se dégage de Meshuggah un style Meshuggah qu'on rencontre aujourd'hui chez pas mal de groupes actuels, voire d'autres styles musicaux. Parce que finalement, Meshuggah, ça remonte à 1989, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, ouais. Et c'était au départ assez influencé par Metallica et des choses plus anciennes, plus basiques, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif.
Et au fur et à mesure, en fait, Meshuggah va se retrouver à être influencé par... Alors certains vont dire par du jazz, même si on ne trouve pas de jazz dans Meshuggah, mais c'est vrai qu'il y a toute une part soit de l'improvisation, soit de la recherche d'une métrique particulière, de toute une influence finalement autre que le métal.
Oui, alors en recoupant un peu et en discutant avec eux, parce que j'ai eu la chance de les croiser, et en recoupant des informations, des interviews, ils disaient qu'ils avaient été influencés par le jazz comme par d'autres musiques, des musiques traditionnelles ou simplement ce qui leur passait par la tête. En fait, la conclusion de ma maîtrise, c'était plutôt que c'était leur manière de faire du rock. Ils m'ont dit clairement, bah nous, c'est notre façon de faire du rock and roll, quoi. Il n'y a aucune prétention à faire une nouveauté. C'était vraiment leur manière de jouer du rock and roll.
Alors je propose aux éditeurs d'écouter tout de suite un extrait de Meshuggah, un disque de 1998, donc ça nous fait remonter un petit peu, mais dans un disque qui s'appelle Chaosphere, qui porte très bien son nom, puisqu'il dégage une agressivité assez conséquente. Donc là on va entendre un peu les caractéristiques du style de Meshuggah, si on peut l'appeler comme ça, dans ce morceau qui s'appelle New Millennium Cyanide Christ, et puis on en parle juste après. Début de New Millennium Cyanide Christ de Meshuggah, groupe suédois, donc nous sommes en 1998. Alors Mathieu Metzger, là on a une sorte d'identité Meshuggah. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire ce qui a aujourd'hui finalement influencé pas mal de musiciens, que ce soit des musiques improvisées, des musiques contemporaines? Qu'est-ce qui frappe dans ce style Meshuggah?
C'est d'abord ce qu'ont noté les gens dans le métal et dans les autres musiques, c'est d'abord ce travail rythmique. Les gens parlent beaucoup de ces mesures asymétriques, ces décalages, des mesures impaires. Mais en général, on peut hocher de la tête comme sur un banal morceau de rock à deux temps ou à quatre temps. Et c'est des petits riffs qui se décalent progressivement, comme on a dans les musiques répétitives américaines, comme dans des musiques traditionnelles. C'est un décalage qui est inclus dans du rock'n'roll.
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une vraie recherche de superposition de métriques aussi, finalement.
C'est-à-dire que c'est... Pour moi, la façon d'aborder le rythme la plus simple, c'est de la danser, en général. C'est ce que fait tout le monde. Et on peut la danser facilement, en fait. C'est le point sur lequel on peut insister. C'est pour ça que ça reste une musique populaire et une musique métal. Et pas une musique complètement savante, coupée du corps ou coupée de...
Alors, Mathieu Metzger, quand vous avez abordé cette musique-là en tant qu'auditeur, d'abord, est-ce que vous êtes confronté justement à ce côté très écrit de cette musique-là? Parce que quand on l'écoute, c'est extrêmement léché, très bien travaillé, composé à plusieurs, je crois. Ils composent souvent tous ensemble. Est-ce que vous, en tant qu'improvisateur, vous avez eu ce regard, ce décalage entre l'improvisation et l'hyper-écriture du métal comme Meshuggah le fait?
Oui, assez, oui. Ça a été un choc. C'était vers 98 au lycée, j'avais des amis qui jouaient dans un groupe de métal qui est devenu le groupe Clone par la suite, avec qui je travaille encore régulièrement et qui a une actualité florissante. le batteur de l'époque avait oublié un disque chez moi. C'était ce fameux album Chaosphère. Et donc j'ai eu ce choc de la double casquette du groupe qui fait donc son rock'n'roll, qui fait son métal, qui fait ses... Il y a des solides guitares, il y a la voix qui crie, et en même temps, il y a cette écriture très complexe. Et en fait, ils écrivent effectivement ensemble. C'est surtout Frédéric Tordendal, qui, le guitariste soliste, qui écrit les morceaux, en tout cas sur cet album. Mais ils n'écrivent pas dans la même pièce. Disons qu'ils s'envoient des parties de riff et ils s'envoient à distance. À l'époque, ils vivaient encore dans le grand nord vraiment de la Suède, et même des fois, ils sortaient pas de chez eux, mais s'envoyaient les choses par Internet. Et c'est de la composition, un peu une espèce de cadavre exquis.
C'est aussi ce rapport au son, puisqu'il y a une identité, Meshuggah, avec ses extrêmes graves. On entend, par exemple, les cordes de basse qui sont hyper désaccordées, enfin pas désaccordées, mais qui sont presque brinque-ballantes tellement elles sont graves. Il y a une identité aussi sonore dans Meshuggah.
Oui, ils ont inventé en même temps cette façon du riff un peu binaire, vraiment ouvert-fermé. Ils l'ont poussé à l'extrême. Vraiment avec ce qu'on appelle les techniques de paume bloquée, où le son est très incisif comme ça, avec un gros silence après, et qui est très percussif. Et ils ont aussi travaillé sur la lutherie, c'est-à-dire que sur les premiers albums, ils avaient des guitares à six cordes habituelles, des guitares électriques. À partir de Chaosphère, ils sont passés sur des sept cordes. Maintenant, ils en sont à des huit cordes, ce qui correspond à peu près à des tessitures de basse, mais avec des cordes très très détendues, qui fait toujours cette espèce de... qui est aussi, lui, très dansant, très mouvant. Et ça donne, dans les groupes de maintenant, ce genre qu'on appelle le djent. Donc les jeunes de maintenant jouent du djent avec, comme père, Meshuggah, alors qu'ils s'en réclament pas forcément, mais ils ont vraiment lancé cette mode de son.
C'est-à-dire que là, quand même, sur la basse, par exemple, nous sommes quasi à la limite du seuil d'audibilité et donne justement des textures qu'on pourrait complètement utiliser aujourd'hui dans les musiques improvisées. Et vous êtes venu avec un morceau de Meshuggah qui, lui, est une improvisation complète de studio. C'est Ayahuasca Experience, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Alors, Ayahuasca, donc il me semble que c'est un des cactus hallucinogènes d'Amérique du Sud. Donc, ça laisse présager un peu du morceau. C'est un morceau qui est un peu à part dans la discographie, mais ils ont toujours ce type d'expérience. Il y a toujours en fin de morceau, là, par exemple la fin de Chaosphère, c'est une superposition de quand on écoute bien, de quatre morceaux du disque. Et il y a toujours en fin d'album une tentative, un essai ou un lâchage comme ça complet qui fait du bien en fait. Enfin, c'est mon avis personnel.
Ayahuasca Experience, une expérience d'improvisation par le groupe de métal suédois Meshuggah. Alors quand on entend ça, évidemment on a l'impression d'entendre des expériences qu'on a pu entendre dans plein d'autres groupes de musique improvisée. Alors Mathieu Betzger, vous en tant que musicien improvisateur, puisque c'est votre métier en tant que saxophoniste, Comment est-ce que ce son de Meshuggah a pu vous influencer dans vos différents groupes? Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous avez un groupe qui s'appelle Killing Spree, qui vient de sortir un album en 2015. Alors, c'est un trio avec Grégoire Galichet et Sylvain Daniel. Et comment est-ce que ce son de Meshuggah, cette matière que nous a proposé Meshuggah depuis les années 90, a pu vous influencer, vous, dans votre écriture?
Alors, premièrement, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ce travail de Meshuggah. Et le fait de faire cette maîtrise, ça m'a permis de un peu de m'échapper de leur musique, pas d'en faire le tour, mais un peu de, parce que c'est comme quand on étudie à fond, par exemple, la salsa, au bout d'un moment, les gens que je connais qui font ça sont obsédés parce que c'est un puits sans fond de culture et d'expérience. Donc, d'avoir étudié, ça m'a permis de prendre un peu de recul et de voir ce qui me plaisait dedans ou pas. J'ai toujours eu le besoin de mélanger les musiques qui me plaisaient et puis ce que j'avais en tête ou ce que j'avais pas encore en tête et de chercher des choses. Et dans ce qu'on appelle les musiques improvisées ou le jazz contemporain, c'est vrai que Meshuggah était une influence depuis un peu plus de 10 ans. C'est la tête de proue de ce qu'on cite comme musique un peu violente, hardcore et savante en même temps. Il y a beaucoup de gens qui improvisent dans cette idée, mais il manque un peu le son. En fait, c'est... toujours la conclusion que j'avais, c'est qu'il manque le son, et c'est pour ça que j'ai demandé à Grégoire Galichet, qui est un très bon improvisateur, mais qui sait aussi lire, et qui vient vraiment de cette culture. Il manque quelque chose de culture, souvent, comme on entend dans Ayahuasca Experience, du son de batterie, de la voix criée, de ce genre de timbre. Et j'avais envie de réaliser ça avec une équipe de choc.
Vous l'appelez Free Metal Trio. Alors ça me fait penser à d'autres groupes qui sont toujours d'actualité, ou bien qui n'existent plus malheureusement. Mais par exemple, il y avait DDJ, un trio qu'on a appelé Dark Jazz à un moment, il y a eu Jean-Louis aussi, ou même bien avant, au début des années 90, l'influence du metal sur, par exemple, Naked City de John Zorn. Alors c'était le metal des années 80-90, donc c'est pas le même son. Mais je veux dire, il y a toujours eu quand même cet attrait des musiciens de jazz et une musique improvisée pour ce metal, cette énergie-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on a vraiment un lien direct qui se fait, par exemple, par des gens comme Grégoire Galichet, qui lui est dans les deux domaines?
Oui, alors c'est vrai qu'on est un trio et il y a quand même pas mal de trios qui existent maintenant. Alors on peut aussi citer des groupes comme Zoo ou comme Zeus, un groupe italien très drôle et très arraché, très détonnant. On remarque aussi que les gens qui improvisent dans cette veine sont beaucoup moins nombreux qu'un groupe de métal, parce qu'un groupe de métal, la puissance vient de l'unisson. Mais si on a trois guitaristes qui improvisent en même temps, en fait, on approche plus de la bouillie sonore que du résultat, parce qu'on a moins de marge de manœuvre dans le son, dans les nuances. Donc c'est vrai qu'en trio, on a un peu plus de liberté. Et on retrouve, il y a aussi un groupe qui s'appelle Mosca Violenta, avec qui on a joué il y a pas longtemps. Et il y a des groupes dans les limbes comme ça, entre les genres, qui naissent. Et c'est assez plaisant de voir ça.
Mathieu Metzger, je vous propose d'écouter un extrait de votre power trio Killing Spree, donc Stinky Flower, dans votre disque qui vient de sortir en 2015. Stinky Flower de Killing Spree, donc votre trio Mathieu Metzger en compagnie de Grégoire Galichet et Sylvain Daniel. Alors ce qui choque dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce qui crée une émotion, vraiment un choc, c'est cette utilisation de cette White Devil Talk Box, comme vous le dites dans le disque. C'est-à-dire c'est une machine qui vous permet de hurler, vraiment.
Alors c'est une machine, disons que moi j'aime beaucoup ces voix criées, mais je le fais très très mal. Vraiment, il faut pas m'appeler pour ça. Donc comme je bricole pas mal l'instrument et que je travaille cet instrument qui s'appelle la Toolbox, qui a un effet de guitariste en fait, qui a été vraiment populaire par... Il y a des gens du P-Funk qui l'ont joué, il y a des guitaristes des années 70, il y a Stevie Wonder qui en a joué aussi, et les plus connus maintenant c'est Daft Punk qui utilise toutes ces voix de robots, ce sont pas des vocodeurs, c'est une talkbox, c'est un tuyau qui envoie du son dans la bouche. Et donc j'ai découvert qu'en envoyant du bruit blanc, c'est-à-dire toutes les fréquences en même temps et qui se rapproche beaucoup du cri, on pouvait avoir cet effet complètement en acoustique, complètement confondant de la voix criée, et ça permet aussi de pas s'abîmer les cordes vocales, surtout quand on sait pas chanter.
Oui, parce que on en parlait la semaine dernière avec Nicolas Bénard, historien du métal. Chanter, enfin hurler dans un groupe de métal, c'est avant tout avoir une technique irréprochable vocale pour pouvoir faire tout le temps.
C'est une grosse technique, sinon c'est 6 mois de carrière et on finit à la cortisone. Et c'est vrai que ça, maintenant, dans les écoles de musique actuelle, comme on les appelle, il y a vraiment des cours de chant guttural, donc grave, aigu, pour donner l'illusion sans se fatiguer. Tout le monde a fait l'expérience de pousser des cris, c'est pas aussi facile qu'on croit.
Alors, dans ce sens-là, de faire hurler un chanteur, de faire hurler dans le métal, quand on écoute votre saxophone, et puis on parlait tout à l'heure des yeux de la tête, enfin l'ex-yeux de la tête, saxophoniste comme Samuel Frein par exemple, ce sont des gens, ou le saxophoniste de Zoo, groupe italien, vous hurlez dans votre saxophone en utilisant aussi des techniques propres au saxophone. C'est-à-dire que progressivement, le cri du métal finalement se retrouve quasiment dans tous les instruments, que ce soit la basse, la guitare, la batterie ou même le saxophone.
C'est toujours l'envie que ça donne. Alors je sais pas si c'est l'imagerie du chanteur en train de crier ou le timbre, mais on a toujours cette envie de dépense d'énergie incommensurable, quoi, qui est vraiment c'est vraiment un transfert d'énergie, cette musique. C'est vraiment même forcer l'énergie jusqu'au public. Donc oui, effectivement, et ça se rapproche aussi de techniques contemporaines et de techniques de choses qui sont utilisées dans le free jazz, qui est une autre manière de crier, à mon avis.
Je vous propose d'écouter un autre morceau de votre free metal trio, donc Killing Spree, avec un morceau qui porte bien son nom, c'est This Song Begins Like a Hit. Et c'est vrai que quand on entend le début, ça ressemble à un morceau quasi de metal, style Meshuga, qui aurait très bien pu être un hit, mais là on va être en plein milieu du morceau, un moment un peu plus chaotique, si je crois bien.
Effectivement, et donc c'est un morceau que j'avais depuis très très longtemps en tête, que j'avais même commencé avant d'écrire cette maîtrise. Donc c'est un peu un clin d'œil et on s'en échappe progressivement.
le plein milieu de This Song Begins Like a Hit de Killing Spree, le trio de Mathieu Metzger. Alors Mathieu, j'ai une petite question, parce que vous qui venez du jazz plutôt, des musiques improvisées, est-ce que le public jazz se reconnaît dans ce jazz metal, ce free metal?
Alors le public est assez enthousiaste, les programmateurs pas forcément trop encore, mais le public en fait, en général, il faut faire confiance au public. Et même, des fois, j'ai été déçu du fait que le public soit enthousiaste, parce que je m'étais dit, je vais faire un... En tant que mauvais jazzeux, je me suis dit, ah, je vais faire un truc qui arrache un peu, et puis les gens vont avoir peur. Et en fait, on oublie que cette musique est communicative, et ils sortent du concert avec un grand sourire. Et je pense que la catharsis marche, et du coup, au début c'était décevant, mais je me rends compte que c'est super.
Finalement, il y a une sorte de rébellion finalement de toute cette génération, la vôtre, de ces musiciens qui vont vers le métal, mais finalement on se rend compte que le métal fait partie de notre culture aujourd'hui, le son métal fait partie de notre culture.
Ah bah oui, tout à fait, c'est aussi le métal, c'est une musique qui est très produite en studio, c'est vraiment une musique qui est née après l'histoire de l'enregistrement, donc qui a grandi avec, elle a influencé même le R&B, même la dance imbuvable qu'on entend dans les supermarchés, le son du métal s'y infiltre.
Alors ce qui est particulier chez Meshuggah, parce qu'on va revenir quand même à notre sujet de base, c'est la dimension de solo qu'il y a dans les guitares de Frederick. Alors c'est Frederick Tordendal, compositeur principal de Meshuggah. Là, on va écouter justement le solo du premier morceau qu'on a écouté dans notre interview, et on va entendre finalement une sorte de solo un peu comme si le geste allait tout seul, un solo presque atonal, complètement déconnecté de ce qu'il y a autour. C'est une marque de Meshuggah, parce que finalement, quand on imagine le soliste de métal, c'est celui qui se donne à mort avec une mélodie très simple en général, mais beaucoup de technique. Là, avec Tordendal, on est presque dans l'expérience autour de la guitare.
Oui, c'est ça. On n'est pas dans le solo épique ou romantique du guitariste de métal. Il a été beaucoup influencé, en tout cas il a beaucoup écouté Alan Ellsworth, une espèce d'alien du jazz rock anglais, on va dire. Et je sais que pour plusieurs types de solos comme ça, pour arriver à cette atonalité, il compose avec des figures géométriques sur le manche de la guitare. Et on le voit en concert vraiment créer quelque chose du visuel et géométrique et en tapping, donc en tapant vraiment sur le manche avec les deux mains. On arrive à ce type de solos et de sonorités qui sont très intéressantes et très personnelles.
Alors, entre géométrie et riff asymétrique, c'est peut-être pour ça qu'on a appelé Meshuggah un groupe de math metal. Donc voici New Millennium Cyanide Christ de Meshuggah. Mathieu Metzger, nous étions en train d'écouter la toute fin de New Millennium Cyanide Christ de Meshuggah, une bonne manière de terminer cette interview autour des influences de Meshuggah sur le jazz, aujourd'hui la musique improvisée. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, parce que vous êtes actuellement à la Villa Kujoyama à Kyoto, c'est là que vous enregistrez, là vous êtes à côté des cigales, vous êtes en pleine nuit, c'est ça?
J'ai réussi à m'échapper des cigales qui sont assez grosses et qui ont un son métallique assez effrayant parfois.
Ça tombe bien pour notre série sur le métal. Donc vous êtes là-bas pour votre duo avec Armel Doucet à l'accordéon diatonique, qui est un duo qui s'appelle Rhizotome. Vous êtes en création donc avec des musiciens japonais. Et on vous retrouvera prochainement au cours de l'année 2016 pour cette création en France. Alors je renvoie tous les auditeurs dans les différents labels avec lesquels vous travaillez, c'est-à-dire Ayler Records, Ayler.com ou encore Nomad Music, un e-label français excellent avec lequel vous commencez à travailler. Et puis vous avez aussi une sortie, je crois, avec Luis Clavis, c'est ça?
Oui, qui sera début 2016 chez Nomad Music, avec le trio Amaryllis et Luis Clavis et Jean-Philippe Feiss, un mélange, enfin un voyage de musique improvisée et de musique baroque.
Donc ça montre bien aux auditeurs qu'on peut écouter du métal et faire de la musique baroque improvisée sans problème. Et pour tout ça, évidemment, je renvoie tout le monde sur votre site internet multiple où on peut écouter un peu tout ce que vous faites aussi en tant qu'ingénieur du son, parce que vous êtes un excellent ingénieur du son, donc c'est mmtz.eu. Merci Mathieu.
Merci.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
Zoom sur Vulcano de Yann Robin. Au départ, tout est sombre, grouillant, magmatique. Au centre de l'ensemble instrumental, trois clarinettes contrebasses, métal, jouent un trémor, un tremblement de terre très doux, qui peut durer quelques minutes, à plusieurs jours. L'intensité monte, la matière devient palpable, le son devient plus agressif, crié. Yann Robin demande aux clarinettistes de crier dans leurs instruments pour créer des sons fendus. Demande aux cordes d'écraser leurs cordes avec l'archet, créant une texture âpre et puissante. Le déroulement de Vulcano est similaire à l'activité d'un volcan. Selon les mots de Yann Robin, le volcan est symbole de grandeur, de puissance, d'énergie enfouie prête à jaillir à tout instant. L'une des choses fascinantes est que sous cette croûte terrestre, qui semble la plupart du temps totalement figée, se déroule une intense activité qui ne cesse jamais. Et si l'on plonge dans le volcan, on y trouve Vulcain, le dieu du feu, des métaux et de toutes les matières qui brûlent. Yann Robin forge lui-même l'espace métallique qui entoure ce dieu forgeron. Thank you. croirait entendre un écho des forges des Nibelungen dans l'Ordurin de Richard Wagner, matiné d'une touche de Sacre du Printemps. Mais avec une énergie rock, on pourrait dire même métal, propre à la génération de Yann Robin. Depuis 2006, Yann Robin a entrepris un cycle qui porte bien son nom, Art of Metal, focalisé sur la clarinette contrebasse métal. Un instrument qu'il observe, scrute, analyse grâce à la complicité du clarinettiste de l'ensemble intercontemporain, Alain Billard. Vulcano s'inscrit dans ce cycle en lui donnant une organicité. Comme si le forgeron Robin, après avoir modelé la matière, s'était mis à lui donner une forme. La musique est faite de tension et de direction, comme une musique sans cesse en renouvellement, sans jamais avoir de moment réel de détente. Coulées de lave, tremblements de terre, nuées ardentes, éjections de gaz, fontaines de lave, les images qui animent l'écriture de Yann Robin ne laissent aucun doute sur la dramaturgie de Vulcano. L'oreille se laisse surprendre par cette perpétuelle matière en fusion, en formation. Fin de notre quatrième épisode du Cri du Patchwork sur le métal. Merci à Perrine Mingui, réalisatrice en chef du Cri du Patchwork. À la prise de son, nous avions aujourd'hui Pierre Monteil. Merci à Flora Sternadel, tête chercheuse de nos bruits favoris. La semaine prochaine, nous terminerons notre parcours dans le métal par un hommage à un grand monsieur qui vient de nous quitter, j'ai nommé Bernard Bachet. Avec son frère François, ils nous ont permis à partir des années 50 de prendre conscience des possibilités acoustiques des structures métalliques qu'ils créèrent sous le nom de structure Bachet et qui aujourd'hui nourrissent quantité de musiciens, pédagogues et autres poètes dans l'approche de notre univers sonore. D'ici là, précipitez-vous sur votre ordinateur ou votre mobile pour podcaster l'émission parce que je suis sûr qu'il y a un détail qui vous a échappé. Chers écoutants,
si je fais 1, Togaram, 1, Param, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, Param, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est 22h30. Je passe la main à Anne Montaron pour une intégrale de Lala Brévé. À vos oreilles.